Alors on l'arrêta sur un air de javin, mais rouge de colère sur un air de javert. En le ventre du flic sur un air de javis qu'il planta sans le singe sur un air de jeune vache. Nana ne sachant rien continuait son turbin. 6 mois se sont passés un matin. Elle rentre à la maison, mais elle a des frissons et s'arrête devant la prison. Julot vient à petits pas sur un air de javin. C'est lui qu'on guillotine sur un air de javine. Sa tête roule dans le panier sur un air de javine. Nana s'évanouit sur un air de javine. Ah, ah, ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah,
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Se marre dans les castes, nos cerveaux et s'agitent à l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche alors. Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux du jour qui débute avec au programme un petit changement. On devait faire initialement une émission consacrée entièrement à George Sand, puisqu'on va cette année être dans le 150e anniversaire de sa disparition. Et puis, bon, des fois, dans cette émission, on est un peu bavard. Ça a été le cas avec l'un de nos deux invités que nous avons rencontré pour un livre qui est paru chez Gallimard. Il s'agit de Stéphane Guégan et le livre, c'est Les Amours de Georges Sand. Alors, du coup, bah, ça va faire deux émissions. Ce sera un petit peu bancal, mais bon, ça permettra de laisser l'intégralité des propos échangés et qui ont été assez passionnants autour de ce personnage qu'est Georges Sand. Le premier invité, donc, ce n'est pas un auteur, quoique, puisqu'il s'agit de David Bobet. David Bobet, c'est le directeur du Théâtre du Nord, et nous l'avons rencontré à l'occasion de la mise en scène qu'il a faite de Lorenzaccio, avec une superbe affiche sur laquelle sont les deux noms Georges Sand et Alfred de Musset. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette pièce, elle est absolument géniale. C'est un spectacle grandiose, passionnant, captivant, émouvant. Et donc, nous avons rencontré David Bobet pour parler de Lorenzaccio au Théâtre du Nord, mais pas que, et de Georges Sand à cette occasion. Et puis donc, en deuxième partie d'émission, nous retrouverons une auteure, qui est Daphné Z. Breitenbach, qui a publié un roman chez Grasset, roman qui s'intitule « Mon pays n'existe pas ». Alors on est loin de Georges Sand, puisqu'il est question d'exil, mais c'est quand même un ouvrage à découvrir. Et donc nous retrouverons une interview de Daphné Breitenbach en deuxième partie d'émission. Voilà, pour l'instant, on retrouve David Bobet, c'est Radio Libertaire, c'est Idéaux et Débat, et c'est Lorenzaccio.
El silencio, pa' que tú entiendas. ¿Cómo va la vida? I talked to you loud, like an old friend that ain't hanging around. Oh, when there's quiet, well, I do my best, but I can't stop making this shit up in my head. But that's alright, I think I see the light. Praying, chasing, looking for a reason. Won't you let it go? 'Cause you don't know. Then you take a bow, watch the glass smile and say, yeah. I've been too many loves, I've been too many tries, too many times losing my mind, thinking about what I said last night. Like me better since I lost my voice. Something about this choir. Como va la vida?
No sé si bien o mal, la vida sigue igual. No hay sentido en las palabras de la gente.
Como va la vida?
cuesta respirar, a veces ya no quiero levantarme. Oír sin escuchar, no sé qué preguntar, hubiera deseado que me escuches.
It was late last night, you know, I was laying in my bed. I just wanted to know, well, how are you doing? Oh, just let the chorus go. All of the I don't know why's you've already tried. You're breaking your mind, so you never walk by. Oh, just gotta let it go. Oh, the funny thing is, I think you're smaller when you shut your mouth. Take a break from yourself.
Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, avec le grand plaisir aujourd'hui de rencontrer David Bobet. Alors, on fait un petit pas de côté puisque nous n'allons pas parler d'un livre, nous allons parler d'une pièce. Et quelle pièce, puisque David Bobet a mis en scène Lorenzaccio et que c'est absolument remarquable. Moi, je suis sortie de la représentation avec les larmes aux yeux, tellement j'ai trouvé que cette pièce était puissante et sa mise en scène très très forte. Mais ce qui nous réunis aujourd'hui, c'est que nous allons parler un petit peu de l'histoire de cette pièce, parce que quand l'affiche a été placardée sur les murs de la ville au Théâtre du Nord, enfin à Lille, j'ai eu la joie de voir Lorenzaccio, George Sand, Alfred de Musset, et là je me suis dit « Ouais !» Parce qu'il faut peut-être pour nos auditeurs rappeler l'histoire de cette pièce et la genèse de cette pièce. On parlera ensuite de ce que vous en avez fait, mais au départ, le pourquoi de George Sand.
Eh bien, tout le monde connaît Lorenzaccio de Alfred de Musset. C'est la pièce qui est enseignée dans tous les lycées de France, qui rappelle des bons ou des mauvais souvenirs à tout le monde. On en a vu des versions, mises en scène, longtemps. Et puis on oublie de préciser que cette pièce-là, elle a été écrite d'abord par George Sand. Mmh. C'est George Sand qui est allé fouiller dans les chroniques de Varchi, Italie, pour décider que dans l'épisode de meurtre de Alexandre de Médicis par Laurent de Médicis, son cousin, il y avait là une tentative de renversement politique et de grandes déceptions politiques, vu ce qui a suivi, et qu'il y avait là quelque chose qui pouvait être intéressant, à la fois pour faire une pièce de théâtre, et à la fois pour servir de miroir à la grande déception de la pré-révolution
de 1830.
Et donc elle décide d'en faire une pièce, qu'elle a appelée une conspiration en 1537. Voilà, c'est comme une espèce de... C'est pas une pièce complètement aboutie, c'est un canevas. Mais bon, c'est George Sand, donc c'est déjà très rédigé, le canevas. Elle va chercher l'intrigue, elle écrit les scènes qui sont conservées telles quelles dans la version de Alfred de Musset. Les personnages sont les mêmes. Elle en tire les enjeux politiques et le personnage de Lorenzaccio, elle lui donne une épaisseur, une complexité qu'on retrouve et qui est développée plus tard par Alfred de Musset. Puis, alors c'est important de le préciser, Musset ne lui a pas volé.
Non, elle lui a donné.
Elle lui donne et elle lui dit « Faites-en bien ce que vous voulez ». Et il en a fait quelque chose de merveilleux. Il a ajouté de la littérature, alors son romantisme, hein, beaucoup moins politisé, Musset le poète, quoi. Donc il y amène ce souffle romantique et crée le chef-d'œuvre que l'on connaît. Ça ne retire rien à Musset, dans l'écriture de ce chef-d'œuvre, que de dire que ça a été écrit à quatre mains. Et je trouve ça assez délirant qu'on continue à enseigner ça aux élèves, qu'on continue à représenter ça, qu'on continue à éditer ce texte génial sans dire Lorenzaccio de Alfred de Musset d'après une idée originale ou d'après un travail original
de George Sand. Alors c'est vrai que George Sand avait une approche littéraire plus politique que Musset. Au moment où elle écrit cette conspiration en 1537, elle est effectivement très animée d'idées révolutionnaires. Alors elle n'est pas engagée, mais elle a une écriture quand même très très forte. Elle ne fera pas partie de mouvements spécifiques, mais en tout cas elle s'exprime par sa littérature sur beaucoup de sujets. C'est une femme qu'on connaît très très mal parce qu'on connaît les écrits de sa fin de vie, alors qu'elle a produit des trucs absolument remarquables, des livres. Déjà elle écrivait énormément, et puis c'était des sujets dérangeants, puissants, qui remuaient un petit peu le monde de l'époque. Et donc elle en a fait cadeau effectivement à Musset, avec donc ces deux contrepoints que sont l'engagement politique de George Sand et le côté romantique poétique de Musset, que vous avez évoqué, David Bobet. Et vous, dans tout ça, comment vous avez travaillé ? Parce que vous nous offrez une version que moi j'ai trouvée très intense, comme je l'évoquais, très politique, très axée sur le présent. Alors Sand parlait donc de ce qui s'était passé effectivement en Italie, mais avec les yeux de quelqu'un qui a vécu 1830, donc c'était une espèce, il n'y avait pas d'anachronisme, mais il y avait ces résonances permanentes dans son texte. Et vous, c'est pareil, vous faites le lien avec notre époque, un peu comme elle. Donc comment vous avez bâti la pièce ?
Que j'essaie de monter une grande pièce du répertoire comme celle-là, c'est souvent que je trouve une clé de résonance avec l'époque contemporaine. J'ai besoin d'une nécessité pour faire un spectacle, et j'ai besoin d'un support qui soit un prétexte à réunir les hommes et les femmes qui vivent autour de moi et qu'on se mette à réfléchir ensemble. Mmh. Et je ne peux le faire que si je trouve comme ça une porte d'entrée dramaturgique dans une œuvre. Et c'est vrai que Lorenzaccio, je connaissais cette pièce depuis longtemps, je me disais, c'est quand même un chef-d'œuvre, enfin, d'un point de vue littéraire, c'est quand même absolument magnifique, mais il m'a toujours manqué quelque chose. Ou alors il me manquait quelque chose, ou alors il y avait trop. Parce que Musset a écrit ça pour être lu dans un fauteuil, c'était publié dans une revue, la revue des Deux Mondes. Et donc il était un peu payé à la ligne,
et quelquefois
c'est un peu bavard, quoi. Il y a quelque chose de, il y a du gras littéraire quand même dans Lorenzaccio, à mon sens. Je vais me faire tuer par tous les 19e-istes.
Non, mais bon. C'est d'accord, on a d'ailleurs vu des représentations qui étaient parfois interminables.
Voilà. Et puis, mais bon, je connaissais cette pièce-là. L'événement un peu déclencheur, c'est l'entre-deux-tours des législatives. C'est-à-dire au moment où le RN risque d'arriver au pouvoir, et où, globalement, les gens en disent du mal, les gens ont peur, les gens se disent il faut qu'on fasse quelque chose, mais rien ne se passe. Et j'ai vu même certaines personnalités publiques hésiter ou refuser d'appeler, ne serait-ce qu'à voter NFP. C'est pas grand chose quand même, ça reste du déclaratif. Mais même là, il y avait quelque chose, un phénomène d'autocensure ou de pression politique. Que va dire mon élu, ou je peux pas me mettre mal avec ma... Alors que quand il s'agissait à faire barrage et à voter, à appeler Macron ou Chirac, les gens le faisaient sans se pincer le nez. Hein. Donc il y a quelque chose qui profondément m'interrogeait sur notre incapacité à nous fédérer et à défendre des valeurs qui sont des valeurs importantes de vivre ensemble, pour résister à cette petite faction qui sort de l'échiquier démocratique et qui souhaite utiliser les moyens démocratiques pour prendre le pouvoir. Et je trouvais ça délirant. Et ça m'a rappelé cette pièce dans Lorenzaccio. Il y a cette pièce-là. Il y a des phrases comme ça. C'est sur l'impuissance, sur l'incapacité
des
peuples à résister à la violence politique d'extrême droite, en l'occurrence, pour la nommer. Et donc, je me suis dit, ah tiens, je vais relire cette pièce-là. Et effectivement, j'ai découvert qu'elle abordait ces sujets-là. Et en lisant, je me rends compte que George Sand a écrit cette pièce. Mmh. Et la version de George Sand, elle est plus politique, plus droite, inachevée, donc aussi plus raide, avec un rapport à la narration efficace, puisque bon, c'est un petit fragment historique, donc c'est vraiment très très efficace à avoir avec nos codes de narration d'aujourd'hui, quoi, vraiment. Et je vois cette espèce de tragédie politique qu'elle nous présente, et c'est la clé pour comprendre vraiment l'œuvre de Musset, parce que la ligne politique, elle est toujours là. Elle est un peu noyée dans la matière littéraire chez Musset. Texte, en faisant une adaptation qui va chercher le meilleur des deux textes, à la fois la colonne vertébrale politique de George Sand, à la fois La superbe poésie de Musset, certains développements de certaines intrigues et personnages aussi qu'il a inventés qui sont super, notamment la mention de Philippe Strozzi, ce personnage est magnifique. Et en liant les deux, eh bien, j'arrive à faire une espèce de version qui est une variation inédite à partir de Lorenzaccio et d'une conspiration très respectueux des deux textes sources et en même temps très impertinent. Je prends beaucoup de liberté. Moi-même, je n'écris rien. Ce ne sont que les mots de George Sand, que les mots de Musset, mais par contre, je peux couper à l'infini. Une réplique peut être composée par un début de Musset, un milieu de Sand et une fin de Musset.
Quel beau collage!
Je me suis amusé à faire comme ça un art de montage comme ça qui était super et qui va chercher le meilleur des deux et qui se débarrasse un petit peu de la raideur, un peu de Sand à son endroit et du gras littéraire de Musset, quoi. Voilà.
C'est vrai que vous avez évoqué l'un des motifs importants de la pièce, qui est l'incapacité à mettre en acte, à passer à l'action. Et ça, c'est une question extrêmement importante, que ce soit à l'époque de Sand ou Musset, ou que ce soit à la nôtre. Et donc, du coup, ça va être un petit peu le fil rouge de toute votre vision de Lorenzaccio. Et moi, ça m'a particulièrement intéressée, parce que qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui va, au cours des différents mouvements de la pièce, faire que ça ne prend pas, ça ne passe pas, que seul Lorenzo, lui, va aller jusqu'au bout de sa démarche.
Il va jusqu'au bout de sa démarche, mais même celle-là, elle ne prend pas.
Pas.
Puisque la résolution est sans surprise, hein. C'est un tyran tombe, un autre tyran est couronné.
Mais il n'est pas entendu, il va faire la tournée de toutes les familles, oui. et c'est un dialogue de sourds.
Oui, oui, absolument. Là, c'est vraiment la tragédie politique que nous propose Georges Sand pour éclairer l'après-révolution de 1830. C'est un espèce de constat absolument désespérant de la capacité des peuples à se fédérer, parce que maintenu dans un état de sidération par rapport aux violences politiques qu'il subit. C'est lorsqu'il y a des tentatives de révolte, et il y en a dans la pièce, hein, à deux, trois reprises, des tentatives de révolte dans la rue, elles sont toujours systématiquement matées par le bras armé de l'État autoritaire, et donc ça crée des morts, des emprisonnements, puis des pendaisons, enfin, c'est absolument l'horreur, quoi. Évidemment, c'est pas sans renvoyer à un système capable d'envoyer des flashballs dans les yeux de retraités qui manifestent pour, non pas leur retraite, mais celle de leurs enfants. Enfin, on s'en rappelle bien. C'est l'inertie absolue des familles puissantes. Souvent, les bonnes révolutions passent par la classe bourgeoisie. Hein? Et là, en l'occurrence, les familles florentines de ce siècle n'arrive pas à se mobiliser, parce que pour lutter pour le bien commun, il faut accepter de délaisser ses privilèges individuels. Et donc, on peut compter sur l'inertie des puissants, puisqu'ils se satisfont finalement du monde tel qu'il va mal. Il y a la question des valeurs. Ça, c'est intéressant, c'est le personnage créé par Musset. Là, pour le coup, c'est politique. C'est Philippe Strozzi, qui est un très vieux patriarche.
Républicain,
qui défend des valeurs, celles des valeurs de liberté absolue, des valeurs de croire au peuple, des valeurs de paix, de justice. C'est très très beau. Il incarne en chair et en os la démocratie.
C'est un idéal, ce personnage.
C'est un idéal. Sauf qu'il est très vieux, très chancelant,
et fatigué.
Incapable de se battre, fatigué, incapable de résister à la violence politique, notamment la violence armée, la violence physique, et il va perdre ses idéaux au fur et à mesure que ses enfants vont être tués. C'est un personnage absolument tragique, il est l'incarnation de la tragédie politique, c'est une déception absolue. Celui qu'on érige comme ça, comme le patriarche, qui tient comme une tour, comme une colonne, qui devrait, enfin, comme un phare, finit par terre. Ça nous apprend que notre démocratie peut-être est un petit peu fatiguée, un petit peu mal goupillée, un peu chancelante et pas forcément très très solide pour résister dès lors qu'une partie d'entre nous décide de sortir du pacte républicain et de s'en prendre au reste. Je sais pas si nos simples valeurs peuvent nous protéger. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Georges Sand nous dit que ça semble compliqué.
Oui.
Et puis il y a la dernière possibilité de résistance, qui est le pari de Lorenzo, c'est-à-dire l'acte individuel. Pour faire une conspiration, il faut deux choses, dira Lorenzo, un homme et un couteau. Et il décide de faire ce tyrannicide, de faire le mal pour se rapprocher du tyran, gagner sa confiance, et à un moment d'abandon, de pouvoir le tuer. C'est évidemment pas sans poser des questions morales. Mais que penserions-nous d'un général qui se rapprocherait d'un Poutine pour lui mettre une balle au petit déjeuner ?
C'est la question de le passage à l'action violente qui s'est répété dans l'histoire.
Exactement. Combien de vies sauvées, mais est-ce qu'on peut valider, moralement, la lutte contre la terreur qui utilise la terreur ? Et puis, où est la limite ? C'est pourquoi si pour Poutine aussi Alexandre de 2016, oui, mais pourquoi pas les autres ? Enfin, il y a quelque chose qui est infini. En tout cas, le texte n'offre pas de réponse. C'est une interrogation politique sur nos moyens d'action et notre inertie à l'action. Et c'est très compliqué de se positionner, je crois, par rapport à ce texte-là. Parce que c'est une bonne tragédie. Et comme une bonne tragédie, il montre la pire des résolutions qui soient. Le pire côté de notre humanité, celle qui est incapable de bouger, qui ne peut que aller vers le pire, peut-être pour espérer nous faire réfléchir et nous faire aller vers le meilleur.
Oui, parce que le point qui est abordé également dans la pièce, c'est la question du pouvoir. évidemment, puisque comme vous l'évoquiez, ces familles sont des familles bourgeoises qui campent sur leur position et sur leur, leur petite parcelle déjà acquise. Le tyran est un tyran. À partir du moment où il accède au pouvoir, il ne peut que devenir tyrannique pour garder sa position. Et donc on voit à quel point...
Convaincre Lorenzaccio, qui n'y croit pas une seule seconde. Hein. Il ne pense pas qu'il peut compter sur les hommes, il ne pense pas qu'il peut compter sur la moindre solidarité, la moindre révolte. Et non pas qu'il les méprise, hein, comme il le dira, mais il les connaît. Et Philippe Strozzi, quand même, à force de persuasion, arrive à le persuader de, avant de faire ton coup, préviens les grandes familles républicaines, et tu verras, ils instaureront la plus belle des républiques qui n'ait jamais
existé. C'est l'une des scènes les plus terribles.
Il y va, et un par un, il va les voir, et préparez vos familles, demain le duc sera mort.
Va te coucher.
Voilà, va te coucher Lorenzo, tu es fatigué, nous en parlerons demain et tout ça. Le soir, il fait son coup, le lendemain, le duc est mort, le surlendemain, rien ne se passe, aucune révolte. Pourtant, dont ils parlent dans toute la pièce, les républicains, ils en parlent autour d'un verre de vin, mais le passage à l'acte, c'est quand même compliqué. Le surlendemain, donc, rien n'a lieu. Et le jour d'après, Côme de Médicis, le cousin du premier, qui dans l'histoire s'avéra être un pire tyran encore que Alexandre de Médicis, va être couronné. Et le peuple dira « Vive Médicis, vive Côme de Médicis, le nouveau duc ».
Alors, il faut voir cette pièce parce que... Alors, ça paraît très sombre comme ça, mais c'est très sombre et c'est oui, volontairement très sombre.
Les tragédies ne sont pas particulièrement lumineuses. Le principe d'une tragédie, c'est de nous montrer le pire de nous-mêmes pour nous appeler à devenir le meilleur. C'est ça, le truc.
Oui.
On sort de là avec la pêche.
Mais vous doublez l'histoire avec la mise en scène qui est extrêmement dense, qui ne laisse pas le spectateur reprendre sa respiration, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est quasiment en apnée pendant 3h20 que dure la pièce avec entracte, et c'est ça aussi qui fait la force du propos. Vous jouez bien sûr avec les éléments contemporains, avec les projections d'images de charges de CRS ou autres, et ça, tout passe, et c'est ça qui fait que moi j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai déjà vu vos pièces précédentes, mais je trouve que celle-ci atteint quand même un sommet, c'est que là, on prend tout en bloc. On ne dit pas « Ah tiens, il a fait ça ». On n'a aucune position de recul, on est dedans.
C'est gentil, merci pour le compliment. Moi, j'avais très envie de faire apparaître le lien entre Florence en 1537, post-1830, et aujourd'hui. Et donc j'y suis allé clairement sur des liens. Donc il y a des projections effectivement de CRS, il y a des CRS en scène qui accompagnent le duc de Médicis qui est en costume d'époque, et les époques se chevauchent comme ça, avec cette espèce de lien. C'est ce que j'ai demandé au créateur costume, c'est vraiment d'essayer de chercher quels sont les habits du pouvoir, ceux qui le détiennent, ceux qui le soutiennent, ceux qui le subissent, ceux qui utilisent la violence. Et c'est intéressant, ces va-et-vient là, entre le costard et le pourpoint, entre le vêtement des rues et le vêtement des métiers, entre le vêtement de soldat, de garde impérial et du CRS. Enfin, ces espèces de va-et-vient sont assez avec les projections vidéo sur un décor qui à la fois est antique et à la fois extrêmement contemporain, des colonnes qui sont des soubassements de parking contemporain d'aujourd'hui, et en même temps des colonnes à l'antique comme comité de coutume dans la Renaissance italienne. Et ce mélange d'époques fonctionne bien. Et il me permet aussi, par l'esthétique comme ça, de créer ces va-et-vient qui font que chacun peut relire cette histoire à l'aune de son propre quotidien. Il me permet de vraiment traiter l'histoire. C'est-à-dire que c'est important pour moi d'avoir un point de vue sur l'histoire, un point de vue qui soit politique, une lecture politique de cette histoire, mais que ce point de vue ne vienne pas écrabouiller le théâtre, écrabouiller la fable, écrabouiller les personnages, écrabouiller le jeu des acteurs. C'est avant toute chose du théâtre. Et pour moi, il me semble que c'est important d'abord de raconter cette histoire, d'abord de transmettre ce texte, et ensuite d'en donner une lecture. C'est tout l'enjeu. On fait du théâtre, et notamment du théâtre public, pour ça, pour essayer de transmettre des objets qui vont devenir des objets communs. Une culture commune, un référentiel commun. À partir du moment où on a la même culture, on partage des objets, des référentiels communs, parce que tout le monde a une pratique culturelle. Hein, les droits culturels nous l'apprennent, ça. Tout le monde, regardez Netflix, c'est une pratique culturelle. Aller prendre un café avec ses amis, c'est une pratique culturelle. Se faire à manger, c'est une pratique culturelle. Mais là où la culture publique agit, c'est sur la culture commune. C'est partager du commun avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Avec des gens avec qui, a priori, on n'irait pas prendre un café ou on n'irait pas passer une soirée Netflix. Et là, on partage du référentiel. Transmettre ces chefs-d'œuvre du patrimoine et du matrimoine fait partie du partage de ces référentiels communs. Parce que quand on a la même culture, eh bien, on commence à reconnaître dans l'autre, malgré sa singularité et ses éventuelles différences, un frère ou une sœur. Et c'est vrai que c'est pas pour rien que l'après-guerre crée le service public de la culture, crée la décentralisation culturelle, fait confiance aux artistes et aux créateurs pour réparer une population éprouvée par la guerre, une population fragmentée, et décide de se dire la culture va nous aider à retransformer une population diversifiée en un peuple, avec une culture commune. Et aujourd'hui, notre mission, service public de la culture, c'est la même chose. Les raisons des fractures sont peut-être autres, elles sont plus politiques, plus idéologiques, plus sociales, plus économiques. Mais notre boulot, c'est la même chose. Donc moi, quand je monte Lorenzaccio, j'ai le sentiment de faire partie de ce travail,
faire lien,
de partage, de lien et de lutte contre toutes les idéologies qui voudraient nous séparer, nous opposer et éventuellement nous apprendre à nous haïr.
Merci pour ce propos qui est, à mon avis, très important parce que effectivement, il peut y avoir un a priori contre le théâtre et surtout contre ce type de pièce en disant « Ah, ça va être un télo, ça va être ceci, ça va être cela ». Et certains le jouent comme ça, d'ailleurs. On connaît certains metteurs en scène qui ont pu monter des pièces en disant « Regarde mon personnage comme il est beau, que tu connais l'histoire et que tu dois avoir 15 000 références avant pour pouvoir comprendre ce que j'essaye de te dire ». Vous, vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là, vous êtes vraiment dans une démarche de théâtre populaire qui repose aussi sur l'émotion et que vous arrivez à faire passer. Et j'aimerais quand même qu'on parle des acteurs qui sont présents avec cet acteur absolument remarquable qui interprète Lorenzaccio, qui est donc Félix Bach.
Les acteurs, ils sont merveilleux. C'est des personnes absolument admirables pour leur vie, pour ce qu'ils sont.
Et pour l'énergie qui dégage sur scène.
L'art qu'ils ont réussi à développer, c'est cet art comme ça qui s'efface, où on écrit sur du sable, qui est l'art de l'acteur, quoi, où on est son propre support. Enfin, c'est assez délirant. Félix Bach, c'est un ancien élève.
De l'école.
Un ancien élève. Donc, le Théâtre du Nord que je dirige, il est associé à une école supérieure d'art dramatique, qu'il y en a 12 en France. Et c'est des très grands acteurs et actrices quand ils rentrent déjà, hein, parce que le degré de sélection est énorme. Et pendant 3 ans, ils mettent leur vie entre parenthèses pour parfaire leur art. Ils sortent de là, c'est juste des artistes incroyables, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de monter Lorenzaccio, Félix Bach est arrivé comme une espèce d'évidence, parce qu'il incarne comme ça presque une vision du héros romantique. Très grand, très fin, avec une peau diaphane où on sent palpiter le tourment derrière la peau, avec une ambiguïté il est à la fois très beau et très monstrueux. Enfin, il y a un côté Hamlet, enfin, dans une vision romantique du Hamlet de Shakespeare. Il est fascinant, puis il capte la lumière de la façon d'Isabelle Huppert, c'est du délire, quoi. Et puis une façon de porter la littérature, lui qui est un grand lecteur. Presque à l'ancienne, presque surannée, une façon de jouer la littérature qui est... C'est fascinant, dans un corps si jeune, il a 26 ans, d'avoir cette maturité et cette intelligence du texte.
Du texte, on
comprend tout d'un coup. On comprend tout de cette grande littérature. Donc il y a lui, il est entouré autour de lui d'autres élèves qui sortent de l'école. Ils sont au nombre de 5 en tout. Et puis il y a des grands acteurs aussi autour de lui et actrices. Je nommerais Mexiano Medeno qui joue le duc, qui offre toute sa bonhomie, sa sympathie. C'est sans doute l'acteur que je l'ai rencontré quand je l'ai vu jouer. Je me suis dit, mais ce mec met un pied sur le plateau et on l'aime déjà. Il déclenche chez moi une avalanche d'amitié spontanée. Et je trouvais que pour jouer le salopard, le tyran, l'ordure. C'est pas mal d'avoir le personnage le plus sympa, le plus souriant, le plus qui est en fait celui qui fait les pires choses, quoi. Je trouve que c'était très très beau en contraste en plus avec Félix. Et puis quelque chose de qui est intéressant avec Mexiano, c'est que Mexiano est un acteur noir et que le duc Alexandre était noir.
Non. Oui.
Parce que tout à l'heure on parlait de non pas la spoliation de l'apport de George Sand, donc de l'apport des femmes dans l'histoire de l'humanité, parce qu'elle lui a confié ce texte, mais en tout cas de son invisibilisation. Et c'est tellement fréquent, l'invisibilisation de l'apport des femmes dans notre humanité, que ça porte un nom, ça s'appelle l'effet Mathilda. Des femmes qui se font voler leurs travaux, leurs découvertes, leurs inventions par des hommes, leurs maris, leurs patrons, leurs assistants, c'est tout le temps. C'est tellement que ça s'appelle l'effet Mathilda. Mais on parle aussi, pas assez, de l'invisibilisation de la place des Noirs dans l'histoire de l'humanité. Parce que le duc Alexandre, le tyran, il s'appelait le mort de Florence. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et c'est vraiment un acteur qui est incroyable. L'autre, c'est Philippe Strozzi. Greg Germain, un monsieur de 83 ans.
Ah oui.
83 ans. Et enfin, il est merveilleux. Enfin, il a passé une vie d'actorat, ce qui fait qu'il a presque plus rien à faire. Il est un acteur. Sa voix, son corps sont déjà. Enfin, c'est c'est fascinant de voir un travail, un acteur de cet âge, de cette trempe. Et puis voilà, c'est un grand, grand monsieur. C'est le monsieur qui dirige la chapelle du Verbe incarné, qui a passé toute sa vie à lutter pour les expressions des Outre-mer, qui fait des films. C'est le premier noir de la télévision française, dans la fiction française. C'est d'ailleurs, c'est le médecin de nuit.
Ah oui.
Voilà, voilà. Et donc il y a lui, et je suis très honoré qu'il ait accepté d'être là, parce que pour moi, ce monsieur, c'est un symbole, quoi. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est fou de se dire que le premier noir de la télévision française est encore vivant. Ça montre juste que c'est pas très longtemps.
Ouais, malheureusement.
Parce que là, il faut préciser que la distribution est très diversifiée.
Oui.
De toutes les diversités. Et on revient d'un long chemin.
Oui,
on
revient
dans le chemin pour lutter contre le racisme de mission.
Et ça fait partie des valeurs que vous portez régulièrement depuis des années.
Absolument, absolument, oui, que la culture publique laisse une place à tout le monde. Oui. Et c'est représentatif du monde tel qu'il est, et pas d'une minorité dominante qui voudrait imposer culturellement sa suprématie. Oui. Et qui élimine systématiquement qui ne lui ressemble pas.
On est en plein dedans en ce moment.
Bah voilà, c'est le risque. Donc voilà. Sinon, de qui je vais pouvoir parler encore comme acteur
ou actrice? Des femmes un peu.
Ouais, absolument. Catherine De Witt, qui joue le cardinal et qui joue Maria de Médicis, qui est une très grande comédienne avec un phrasé impeccable, une puissance de jeu. Elle est merveilleuse. Jade Crépy, qui joue Louise. Et en fait, c'est le rôle de Pierre que j'ai beaucoup donné à l'actrice qui joue Louise. Parce que Pierre est un peu révolutionnaire, un peu tête brûlée, et j'en avais marre de voir toujours un jeune homme avoir le discours politique, être à fond, que tout le monde veut protéger. Enfin, c'était un personnage presque un peu ennuyant. Mais en le filant à une femme,
ça change.
Qui plus est, qui s'appelle Louise. Mm. Évidemment que ça renvoie à des imaginaires de puissance
oui.
Révoltée. Ça, d'un coup, le personnage il prend une autre épaisseur. Mm. Et de Pierre, je ne garde que le fait que tout le monde s'inquiète pour lui et qu'il fasse un peu des conneries. Mm. Et là, c'est Jules Turlet qui joue ce rôle. Et Jules, c'est un chansigneur, c'est-à-dire que c'est un sourd qui est acteur et qui va jouer un personnage. C'est pas une démarche d'accessibilité parce qu'il est pas là pour traduire la pièce en langue des signes française. C'est juste que une démarche de banalisation. Mm. Un des personnages est sourd. Encore une fois, un plateau de théâtre public doit ressembler peu ou prou à la vie et à sa diversité.
Alors la pièce va tourner. Beaucoup.
Beaucoup, ouais.
Et ça, c'est très bien. Si vous voulez avoir les lieux, vous allez sur le site du Théâtre du Nord. Ici, c'est complet, de toute façon.
Ici, c'est complet, oui, bien sûr. Et puis, on part toute la saison prochaine en tournée en France. Il y a déjà une autre saison qui est en train de se construire. On passera en région parisienne à Cergy et un mois au Cédène de Montreuil.
Ah, c'est bien.
Au printemps prochain.
D'accord. C'est donc Lorenzaccio, c'est de Georges Sand et Alfred de Musset. C'est mis en scène par David Bobet. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Bientôt la prochaine saison.
Oui, présentation. Bientôt, voilà, la saison est faite. On présente la saison aux partenaires qui sont professeurs. Professeurs de lycée et collège, tout ça, dès lundi.
Merci beaucoup.
Merci.
Avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque.
Avec ma gueule de métèque. Maganage de nègre errant, toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc au possible, dans le rang impossible. Votre morale au crime, qu'on me délaisse de mon ego. Ça me rend psych sur l'écran, ça me rend psych dans mon flow. Et là y'a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens. J'en ai trop. Avec ma gueule de métèque, mon œil de prédateur, en phase avec son temps, j'ai poussé sans tuteur. Poussé comme une mauvaise herbe, comme un monde croit tout seul. Qu'on me dicte mon attitude, fout la gerbe. C'est la merde, c'est la merde.
Ah,
avec ma gueule,
avec ma gueule de métal, à pistolet qui s'est bastonné, à qui on a pris tout volé, si peu donné, j'ai pris des branlés, pas un père déserteur, au point d'en espérer qu'en enfer y ait du bonheur, la perception atrophiée, et c'est pas votre moralité qui m'a habillé, parce qu'anormal est l'isolement dans lequel j'ai pu nager, dans lequel on m'a plombé, auquel personne n'a jamais voulu rien changer, avec ma gueule de métal, approuvé par la passion, mon sacerdoce c'est ma mission, et si récompense il y a, mon cœur me guide au trépas, rien n'est acquis, je l'ai toujours pris ça, ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas.
Avec ma gueule,
avec mon air aigré amer, galbé comme un fil de fer, affûté pour la guerre, je roule pour la maison mère, avec ma gueule je fais bélec, j'ai pas une ganache de dieu grec, il est possible qu'on m'arrête, ou par erreur qu'on m'affrète, avec ma bouche qui a trop dit, mon air obtus qui pue la rue, cette façon d'être à l'affût, et en même temps d'être à la rue, avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, avec mes rêves de délinquant, mes coups de sang incessants, avec ma gueule de métier, héritière d'une souffrance lointaine, je veux pas finir en victime, ni même finir à freine, avec son visage, ses yeux verts, tout me rapproche de ma mère, tout m'éloigne de mon père, grâce à qui j'ai ce goût amer.
Avec ma gueule de...
Toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz. C'était donc David Bobé qui nous parlait de sa mise en scène de Lorenzaccio au Théâtre du Nord. Vraiment, l'année prochaine, quand la pièce va circuler, allez la voir. C'est juste vraiment 3h20 de pur bonheur. C'était pour le théâtre. On va parler maintenant de romans avec Mon pays n'existe pas, ce roman de Daphné Breitenbach qui est paru chez Grasset. Alors pour info, la qualité sonore est parfois un petit peu mauvaise dans la mesure où cet entretien a été réalisé dans un endroit un peu bruyant. C'était dans un des salons de l'Hôtel des Saints-Pères et donc il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a des bruits de bouteilles et je m'en excuse par avance.
Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, avec le plaisir de parler d'un premier roman aujourd'hui qui est paru chez Grasset et c'est Daphné Breitenbach, son auteur qui est avec nous pour en discuter ce soir. Et le livre s'intitule « Mon pays n'existe pas ». Et il y a déjà beaucoup de choses dans ce titre. On va être amené à l'évoquer parce que c'est un titre qui va très très bien avec le roman, mais c'est un titre choc. Parce que quand on lit, déjà, on tique en se disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire « Mon pays n'existe pas » ?» Et c'est en plongeant dans l'histoire qu'on découvre ce que veut dire « Mon pays n'existe pas ». Alors, il est venu comment, ce livre ? Il est venu avec le titre, avec l'histoire, avec le personnage. C'était l'envie de l'axer comment ? De le construire comment ?
Je crois qu'il a commencé à exister avec le personnage, effectivement, avec Maria, qui est ma protagoniste, mon personnage principal. C'est elle qui est née la première dans ma tête. Et avec elle, bien sûr, je savais les thématiques que j'avais envie d'aborder, qui sont doubles en réalité, qui sont dans un premier temps la thématique de l'exil.
L'exil, bien sûr.
De l'exil, de l'immigration, de l'identité, de la perte d'un pays. Et dans un second temps, la thématique du silence et des secrets de famille. Donc que autour d'elle se sont greffées un peu ces thématiques là et puis après voilà, petit à petit tout s'est un peu enchaîné. Le titre lui est arrivé à la toute fin en réalité.
Ah ouais.
Le titre de travail était un autre titre que moi j'aimais bien, mais mon éditeur m'a dit c'est pas le bon titre, tu verras, le vrai titre apparaîtra de lui-même. Et puis un jour il m'en a proposé deux, et parmi ces deux-là figurait celui-ci, Mon pays n'existe pas. Je lui ai tout de suite dit, alors là c'est exceptionnel, c'est exactement ça.
Oui.
Maintenant que je lis ce titre-là, ça ne peut pas en être un autre. Et à ça il m'a répondu, c'est une citation du livre. Voilà. Donc en fait, le titre était déjà là.
Mais oui.
C'est que moi, je ne le savais pas.
Alors effectivement, Mon pays n'existe pas va raconter l'histoire de cette jeune femme qui est une jeune femme entre guillemets ordinaire, qui pourrait passer totalement inaperçue dans la rue. On pourrait la croiser sans aucune difficulté. Mais en fait, en vrai, elle vient effectivement d'un pays qui n'existe pas. Plus.
Absolument. Maria est née en ex-Yougoslavie en réalité, donc elle est née à Belgrade. Elle y passe les 5 premières années de sa vie, enfin 4 et demi pour être exact. Et puis quand se déclenche la guerre, sa mère décide de fuir et d'aller s'installer en France. Enfin, elle passe par l'Allemagne brièvement, puis elle arrive à Paris. Elle se retrouve donc finalement sans papier, enfin réfugiée politique pendant son enfance. Mais surtout, la singularité de Maria, c'est que donc elle devient vite ce qu'on appelle apatride, puisque son pays d'origine est démantelé, et donc la Yougoslavie, en l'état, n'existe plus. Donc sur son acte de naissance, elle est née dans un pays qui n'a plus d'existence, ce qui pose tout un tas de soucis.
Oui, alors c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'avais pas capté, parce qu'effectivement, on a vécu la guerre depuis l'Europe, on a entendu beaucoup parler de ce conflit. Elle est du côté des Serbes, il faut le préciser, donc avec tout ce qu'on imagine autour enfin d'idées reçues autour des Serbes, qui sont du mauvais côté de l'histoire. Elle est réfugiée, effectivement, et on en parlera de cette histoire de fuite, d'exode, d'exil, décidé par sa mère, avec sa tante, mais c'est ce statut d'apatride que j'ignorais totalement, et c'est quand même quelque chose de très particulier de se retrouver, quand on arrive quelque part, avec un passeport d'apatride.
Exactement. Et finalement, elle doit attendre l'âge de 18 ans pour être en mesure de demander sa nationalité française et de devenir française. Alors, elle le dit à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle dit je sais que ça ne poserait pas de problème et que je deviendrai française parce que rien ne m'en empêchera au moment où j'en aurai le droit. En attendant, elle passe quand même de nombreuses années à avoir ce papier, cette espèce de passeport de réfugié bleu nuit qu'elle décrit dans l'un des chapitres, et à avoir assez honte de ça. Parce qu'elle se sent, au sens propre, déracinée.
Alors elle se sent déracinée, et elle est déracinée, parce que il y a aussi dans ce phénomène de l'exil une amnésie importante, amnésie traumatique, qui va faire que déjà elle va perdre sa langue d'origine, elle va perdre les souvenirs de ce passage en Allemagne qui est bref mais qui dure quand même plusieurs mois, et ça elle va complètement l'occulter. Elle va perdre le souvenir de son pays, il ne lui reste que quelques petits flashs, quelques images. Et elle va se retrouver donc apatride, enfant, en France, enfant, à devoir se couler dans des codes qu'elle ignore totalement. C'est une situation très complexe.
C'est une situation très complexe. Alors, en effet, dans un premier temps, et peut-être la perte principale est celle de sa langue, parce qu'en arrivant à Paris, bien sûr c'est un enfant, les enfants apprennent très vite, s'intègrent très vite et apprennent très vite de nouvelles langues, donc assez rapidement elle maîtrise le français, elle garde pendant quand même un temps assez long un accent dont là aussi elle ressent une forme de honte, et du coup pour perdre cet accent-là et pour passer le plus inaperçu possible, petit à petit, elle perd complètement sa propre langue à elle, parce qu'elle se met à ne vouloir parler plus que le français. On va parler français avec sa mère, avec sa tante, avec évidemment tous ses amis. Et une chose en emmenant une autre, elle devient, et elle le dit elle-même, orpheline des mots de son enfance. Parce que quand on perd sa langue, on perd avec cette langue une manière finalement de nommer la terre, la terre de la naissance, de nommer les souvenirs, de nommer quelque part aussi l'identité qui est la sienne. Donc bien sûr, elle essaye de se fondre dans un moule. Et il se trouve en plus que sa mère arrive à Paris, mais ne s'installe pas n'importe où. Elle s'installe dans les entre guillemets beaux quartiers parisiens. En l'occurrence, autour du quartier latin, par là, rive gauche à Paris. On lui offre un poste de concierge. Et donc Maria se retrouve catapultée dans un monde extrêmement favorisé. Non seulement elle est issue de l'exil, a été profondément bouleversée par le fait de devoir quitter sa maison, sa ville, ses amis, sa grand-mère, ce passage en effet par des camps de réfugiés en Allemagne dont elle ne se souvient absolument pas, mais en plus de ça, elle doit se faire une place dans un monde qui n'est quand même pas facile et où on l'observe beaucoup. Et voilà, ça va être tout le cheminement qui va être le sien jusqu'à ce qu'elle devienne adulte.
Thank you.
d'autant plus compliqué que, bien sûr, elle est hors sol, puisqu'elle n'a plus les racines et qu'elle doit pousser sans ça. Mais en plus, elle est différente sans l'être. C'est-à-dire qu'elle est une bonne immigrée, d'une certaine manière. Elle est blanche, elle a un déclassement social, mais malgré tout, elle est intégrée. Et c'est à chaque fois une histoire de petit décalage. C'est pas le truc qu'on prend en pleine figure, non, c'est justement ce petit décalage qui fait la différence et qui fait que c'est encore plus inconfortable.
Tout à fait, elle le dit d'ailleurs à un moment, elle dit « je sais pourtant être du bon côté parmi les immigrés ». C'est-à-dire que si on ne connaît pas son histoire, on ne devine déjà pas forcément qu'elle n'est pas d'origine française, en tout cas elle pourrait être du sud de la France, enfin voilà, il se trouve qu'elle est très brune, mais elle passe quand même assez inaperçue dans son quotidien parisien, donc elle n'a pas ce stigmate physique d'être nécessairement vue comme une étrangère. Je le disais juste avant, elle a fait tout son possible pour perdre son accent, donc son français est évidemment impeccable relativement rapidement. Et donc et puis c'est un personnage qui cherche aussi beaucoup à se fondre dans le moule, c'est-à-dire que toute sa démarche, c'est quelque part de réussir à passer plus ou moins inaperçue. Elle n'a pas envie d'être différente. Hein, elle garde ça de l'enfance. Je crois qu'elle garde de l'enfance le besoin très fort d'appartenir, et probablement parce qu'elle a tant perdu ce qui était intimement à elle que du coup elle veut au moins appartenir à cette terre d'adoption.
Oui, et la conséquence de ce besoin d'appartenance et de ce besoin de se glisser dans un modèle qui n'est pas elle, en fait, va être la perte de sens. D'une certaine manière, elle va avoir, entre guillemets, une réussite sociale, de même que sa mère ne va pas rester concierge et va gravir très très vite les échelons pour avoir une vie confortable. Et ben elle, c'est pareil, elle va faire des études assez brillante, elle va réussir, elle va avoir un poste convenable, très très à la mode, mais tout ça c'est du vide.
Tout ça c'est du vide parce que c'est là où le livre commence. C'est quand elle a la trentaine, qu'elle a bien avancé dans la vie, elle a un métier, elle a fini ses études, elle a son appartement, elle vit toujours, entre guillemets, un tout petit peu excentrée, en tout cas elle vit dans le 14e arrondissement à Paris. Et dans l'absolu, tout va assez bien. Mais petit à petit, elle commence à se rendre de plus en plus compte qu'il lui manque en réalité beaucoup. Et qu'il y a un vide en elle, et que ce vide en elle finit par s'imposer, finit par devenir trop grand, trop important pour elle. Et elle comprend, et là bien sûr, la rencontre qu'elle va faire va lui donner, je ne sais pas si c'est la force, mais en tout cas, elle va lui donner l'impulsion, voilà, d'aller interroger sa propre histoire. Mais en tout cas, elle prend conscience à cet âge-là qu'il est temps pour elle d'aller remettre ensemble les pièces de ce puzzle très éparpillé qu'est sa vie et son histoire.
Oui, parce qu'au-delà de cet exil qu'on a évoqué et de tout ce que ça peut susciter en elle, cette famille est une famille de femmes. Il y a sa mère qui ne dit rien, il y a sa tante qui est une horreur totale, il y a sa grand-mère qui est restée là-bas, qu'elle a de temps en temps au téléphone, parce que heureusement la grand-mère parle un peu français. Donc ça c'est une aide, mais c'est aussi une perte de ne plus la voir près d'elle. Et puis voilà, il y a un oncle, mais en tout cas il manque quelqu'un dans la famille de cette femme, quoi.
Il manque quelqu'un d'important, bien sûr. En fait, il manque son père.
Et oui.
Voilà, il manque son père. Ça c'est le. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, on peut aussi faire le parallèle avec le titre, parce que le titre qui est Mon pays n'existe pas aurait pu aussi être Ma patrie n'existe pas. Patrie comme la terre du père. Maria n'a jamais connu son père. On lui en dit très peu de choses. On lui en dit suffisamment pour qu'elle en soit relativement fière. C'est-à-dire qu'on lui donne des bribes. On lui explique qu'elle n'en sait pas plus, mais que c'était quelqu'un de très important. Donc, qu'elle n'a pas à rougir de l'homme qu'il était. Mais finalement, elle n'a aucune idée de l'homme qu'il était. Et arrivée à ce moment-là de sa vie où elle décide d'aller interroger sa propre histoire, elle se rend finalement compte qu'elle en sait vraiment très peu.
Oui, mais ce qui est intéressant, on ne dévoilera bien sûr pas l'histoire du livre, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on en arrive à se construire sa propre histoire. Comment le livre est intéressant aussi pour ça, parce que comment on fictionne sa propre vie.
Comment on fictionne sa propre vie et comment, je crois, on peut faire parfois d'un fantasme une réalité, et une réalité très tangible. Alors, dans le cas de Maria, finalement, il y a un fantasme un peu familial qui se construit. C'est-à-dire qu'on l'a... On lui ment, ça c'est l'un des sujets du livre, on lui ment, bien sûr, mais on lui ment aussi par amour, on lui ment aussi pour la protéger.
On lui ment utile.
On lui ment utile, voilà. On lui ment pour l'enrober dans quelque chose d'assez doux. C'est pas un processus manipulatoire cynique. C'est pas de cet ordre-là. Bien sûr, après la suite de l'histoire se complique un peu, mais c'est sûr que ce silence-là, Maria, elle l'habite entièrement. Ça l'habite entièrement. Et donc, ça va être toute sa démarche que d'aller chercher à trouver le courage, de sortir du silence et sortir du secret de famille. Thank you.
Et sortir du silence, ça va passer par la rencontre d'une voix. D'une voix qui est quelqu'un qui vient, un acteur qui vient passer un casting pour enregistrer une pub quelconque pour TikTok ou autre, et qu'elle ne voit que de dos, et dont elle va entendre la voix. Et c'est cette voix qui va quelque part commencer à la remplir.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai qu'avant de voir le visage de Florent, il s'appelle Florent, elle entend d'abord sa voix, parce qu'il est donc derrière un micro, parce qu'il passe un casting pour une pub, pour les réseaux sociaux, quelque chose d'assez banal. Et elle décrit sa voix comme étant faite presque de velours. Il a des boucles aussi, il a des boucles rousses qui l'intriguent, une manière un peu nonchalante de se tenir. Et en effet, il y a cette voix-là. Et cette voix-là va après aller de pair avec une conversation qui va s'enclencher entre les deux, et finalement cette conversation quelque part elle va se poursuivre pendant tout le livre, et c'est à travers cette conversation là symboliquement, disons, que Maria va aller chercher les réponses dont elle a besoin.
Alors elle va aller les chercher, mais il va aussi la pousser à aller chercher, parce que effectivement ça a un petit côté mille et une nuits, en fait, votre histoire, parce que ce personnage, Maria, va retrouver Florent de rendez-vous en rendez-vous, qui ne sont pas des rendez-vous d'ailleurs, puisqu'ils ne savent pas quand ils vont se retrouver, et ce fil se noue entre eux comme ça, un peu à la manière du conte des mille et une nuit plus une nuit plus une nuit, où on évoque l'histoire. Mais avant de parler de ce lien qui va naître entre eux, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que quelque part, Florent, lui aussi, connaît un exil, et c'est un exil intéressant puisqu'il vient d'une région précise qui n'est pas la région parisienne, et que quelque part il en éprouve aussi lui les conséquences.
Absolument. D'ailleurs, c'est au début un petit point de friction entre eux, parce qu'il lui dit moi aussi je connais l'exil. Lui, il est bourguignon, il a grandi à Dijon. Il vient d'une famille de vignerons, son grand-père est plutôt de la Côte d'Or, autour de Beaune, Pommard, par là. Il vient d'une famille assez très modeste du côté de sa mère, plutôt d'une petite bourgeoisie cossue, mais tout de même paysanne du côté de son père. Et lui, très jeune, de la même manière que Maria a du mal à trouver sa place quelque part, voilà, c'est un petit garçon qui prend beaucoup de... qui est turbulent, qui chahute, qui se sent un peu de trop, et qui a des envies d'ailleurs, et qui a des envies d'art surtout, des envies d'art, des envies de théâtre. Du coup, il finit par partir après son baccalauréat à Paris pour devenir comédien, et là, il raconte à Maria le choc que c'est à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il se retrouve sans avoir les codes, il se retrouve... il se sent engoncé, il se sent maladroit...
Il a un accent,
il se sent en fait complètement perdu. Mm-hmm. Et donc quand elle lui raconte elle son histoire, elle lui dit moi c'est quelque chose dans lequel je me reconnais pas mal. Alors au début elle est assez froissée, comme si son exil à elle était l'exil le vrai, le seul, le dramatique, le tragique, le bon exil. Mais au fur et à mesure de leur discussion, où en effet chaque nuit passant ils se confient l'un à l'autre de plus en plus. Elle finit par comprendre le parallèle qui existe entre leur vie et tous les deux. C'est évident, ouais.
Alors, un élément qui est important aussi, c'est que lui a des racines profondes, puissantes, liées à la terre, liées à la vigne, liées vraiment à des conditions matérielles bien, bien définies.
Tout à fait, il lui dit ça d'ailleurs. Il lui dit. Non, c'est elle qui le dit à un moment donné. Elle dit, Florent est conscient qu'en fait, à quoi peuvent ressembler des racines ? Ça peut ressembler par exemple aux pierres d'une maison. Et que avoir le rêve de posséder, de construire sa propre maison, c'est quelque part le rêve de fortifier ses racines, enfin, et de trouver une place dans le monde. Pour lui, c'est très important. Elle s'en sent assez incapable, c'est quelque chose qu'elle a vraiment... au contraire, elle se sent très flottante, en fait, dans le monde. Elle se sent un peu perdue, elle se sent chez elle sans être chez elle. Et elle est très rassurée par ce qu'elle voit chez Florent de cette vraie volonté de revenir un jour à sa terre. Il lui parle des odeurs, il lui parle des saveurs, il lui parle de la neige, de la pluie, de ce que c'est vraiment que d'être intimement relié à une terre. Et ça, je crois que ça la touche beaucoup.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages sont en fait un peu complémentaires dans leur quête. C'est-à-dire que lui cherche une place, un lieu, et elle cherche une histoire, une chronologie.
Exactement. Elle cherche à savoir qui elle est, profondément, bien sûr. Elle cherche à recoller les morceaux. Elle cherche à sortir du mensonge pour pouvoir avancer sur ses deux pieds, je dirais. Et lui, en effet, cherche un refuge. Mais finalement, lui devient aussi pour elle une forme de refuge. Et je crois qu'elle cherche aussi, un amour qui console. Elle cherche aussi un amour qui lui permet de se sentir chez elle.
C'est ce qui va provoquer quelques frottements d'ailleurs entre eux. Mais on n'en dira pas plus. Voilà, en tout cas, vous avez tous les ingrédients de ce roman « Mon pays n'existe pas ». C'est de Daphné Breitenbach, c'est paru aux éditions Grasset. C'est fascinant parce qu'on découvre petit à petit l'histoire et ce qu'il y a derrière les silences familiaux. On découvre aussi comment ils vont chacun se mettre au pas l'un l'autre ou pas. Vous découvrez en lisant l'histoire. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors, question, Daphné, est-ce qu'il va y en avoir un suivant ? Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur quelque chose ?
Oui, je travaille sur quelque chose. Il y en aura. J'avais commencé quelque chose d'autre il y a déjà quelques mois. Et puis, un événement récent m'a amené à décider de le mettre un tout petit peu en suspens. Et j'ai entamé un nouveau manuscrit qui, je crois, sera, je l'espère, deviendra mon deuxième roman.
Roman, donc.
Un roman qui aux thématiques qui me sont très proches et très intimes, mais qui, oui, quelque chose en moi dans l'écriture, je crois que le roman me permet de, quelque part, d'aller encore plus loin.
Pour l'instant, lisez Mon pays n'existe pas, c'est chez Grasset et c'est donc de Daphné Breitenbach. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Shit, like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. Play.
watched you, I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. We're alive. I want to hear some mandolins.
C'était Daphné Breitenbach sur Radio Libertaire pour parler de Mon pays n'existe pas, paru chez Grasset. C'est la fin de cette émission. En première partie, on a parlé de George Sand avec David Bobet à propos de la pièce qu'il a mise en scène, la version de Lorenzaccio, Musset Sand qu'il nous a concoctée. Et puis dans la prochaine émission, eh ben, on continuera de parler de George Sand avec Stéphane Guégan pour Les Amours de George Sand, paru chez Gallimard. Et ce sera donc une seule interview, parce qu'il y a quand même plein de choses à dire sur elle. Voilà, donc d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, gardez une oreille dans nos programmes, et on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière de la saison. D'ici là, portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Quand ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
va falloir montrer les crocs avant qu'il nous serre la laisse autour du garrot.
Toujours dans le sac à dos, les sciences. Mais ta passion, c'est l'écriture, les pattes de mouche et les ratures. Et en cachette, t'écris tes vers, bien sûr dans la langue de Prévert. T'aurais pu croupir au bureau, mal dans tes fringues, mal dans ta peau, de ne jamais avoir osé claquer la porte sans te retourner. Un jour t'as pu saisir ta chance avec la bonne dose d'insouciance, pour pas finir aigri et vieux, des tonnes de regrets dans les yeux. Entre la tendresse, la colère, tu chantes dans la langue de Prévert. Aujourd'hui c'est ton métier, toutes les planètes sont alignées. Quand tu repenses au lycéen, t'aurais pas parié ton destin. Mais comme ton truc c'est la musique et pas leur foutue statistique, quel que soit le son du moment, tu marches à côté tranquillement et tu te sens libre comme l'air. Toujours dans la langue de Prévert. Et tu te sens libre comme l'air, toujours dans la langue de Prévert.